Chapitre 21. Le baron offrit son bras à Ernestine, qu'il conduisit dans la salle à manger, où se rendit bientôt Helena, un peu attardée par l'envoi d'une lettre à l'abbé Ledoux au sujet de la rencontre du lendemain. Pendant le dîner, Ernestine fut le constant objet des prévenances, des obséquiosités du baron, de sa femme, d'Helena et des domestiques, qui subissaient comme leur maître l'influence magique de ces mots tout-puissants qui résumaient la position de l'orpheline, la plus riche héritière de France. Vers la fin du dîner, le baron, affectant l'air du monde le plus détaché, dit à mademoiselle de Beauménil « Ma chère pupille, vous vous êtes reposée aujourd'hui des fatigues de votre voyage. Il faudrait, ce me semble, sortir demain et les autres jours pour vous distraire un peu. » Nous y avions pensé, Helena et moi, dit madame de la Rochegue. Votre sœur accompagnera demain Ernestine à l'office. Dans l'après-dînée, mademoiselle Palmyre et mademoiselle Barenne viendront essayer à notre chère petite belle les robes et les chapeaux commandés hier par mes soins, et après-demain nous irons faire un tour en voiture aux Champs-Élysées. À merveille, dit le baron. Je vois la journée de demain et celle d'après-demain parfaitement employée, seulement je me trouve, moi, très mal partagé. Aussi, je vous demande ma revanche pour le jour d'ensuite, ma chère pupille. Me l'accorderez-vous ?
Certainement, monsieur, avec le plus grand plaisir, répondit Ernestine.
La grâce de cette réponse en double encore le prix, dit le baron avec une expression si convaincue que l'orpheline se demandait ce qu'elle avait répondu de si gracieux lorsque la baronne dit à son mari « Voyons, monsieur de la Rochegue, quels sont vos projets ?»«
Ah ah !» répondit le baron d'un air fin.
« Je ne suis ni si dévotieux que ma sœur, ni si mondain que vous, ma chère amie. Je propose donc à notre aimable pupille, si le temps le permet, une promenade dans l'un des plus beaux jardins de Paris, où elle verra une merveilleuse collection de rosiers en fleurs.
« Vous ne pouviez mieux choisir, monsieur, » dit naïvement Ernestine, « j'aime tant les fleurs. »
« Ce n'est pas tout. Et comme je suis un homme de précaution, ma charmante pupille, » ajouta le baron, en cas de mauvais temps, nous ferions notre promenade dans des serres chaudes superbes ou dans une magnifique galerie de tableaux renfermant les chefs-d'œuvre de l'école moderne.
Et où se trouvent donc réunies toutes ces belles choses, monsieur ? Dit Ernestine, véritablement émerveillée.
Ah, ma chère pupille, quelle véritable parisienne vous êtes ! Reprit monsieur de la Rochegue en riant d'un air capable.
Et vous aussi, baronne, et vous aussi, ma sœur.
« Je le vois, à votre air étonné. Vous ignorez où se trouve ce pays de merveilles qui est pourtant presque à notre porte. »«
En vérité, » dit mademoiselle de la Rochegue, « j'ai beau chercher, je... »«
Vous ne trouvez pas, » reprit le baron radieux.
« Voyons. »«
J'ai pitié de vous. Toutes ces merveilles se trouvent réunies au Luxembourg. »«
Au Luxembourg ?» s'écria la baronne en riant et s'adressant à Ernestine.
« Ah, ma chère belle, c'est un piège abominable, car vous ne savez pas la passion de monsieur de la Rochegue pour une autre des merveilles du Luxembourg dont il se garde bien de vous parler. »«
Et quelle est cette autre merveille, madame ?» demanda la jeune fille en souriant.
« Figurez-vous, pauvre chère innocente, que monsieur de la Rochegue est capable de vous conduire à une séance de la chambre des pères, sous prétexte de serres, de fleurs et de tableaux.
Eh bien, pourquoi pas dans la tribune diplomatique ?»
Ma chère pupille s'y trouverait en belle et bonne compagnie, riposta le baron. Elle rencontrerait là de ces bienheureuses femmes d'ambassadeurs, de ministres.
Bienheureuses, le mot est charmant, dit gaiement la baronne.
Et d'où leur vient cette canonisation, s'il vous plaît ?
Puis, se tournant vers Helena.
Entendez-vous, votre frère, ma chère, quel blasphème !
Je maintiens, répondit le baron, qu'il n'est pas au monde une position plus enviable, plus charmante, plus admirable que celle de la femme d'un ambassadeur ou d'un ministre.
« Ah, ma chère amie !» ajouta le Canning ignoré, en s'adressant à sa femme d'un ton pénétré. « Que n'ai-je pu vous donner une pareille position ? Vous eussiez été jalousée, adulée, fêtée. Vous seriez devenue, j'en suis sûr, une femme politique supérieure. Vous eussiez dirigé l'État, peut-être. Y a-t-il un rôle plus beau pour une femme ?»
Voyez-vous, ma chère belle, quel dangereux flatteur que monsieur de la Rochegue, dit la baronne à Ernestine. « Il est capable de vouloir peut-être vous donner aussi le goût de la politique. »«
À moi, madame ? Oh, je ne crains pas cela.
répondit Ernestine en souriant.
Vous raillerez tant que vous voudrez, ma chère amie, dit le baron à madame de la Rochegue, mais je prétends que ma chère pupille a dans l'esprit quelque chose de réfléchi, de posé, de sérieux, très remarquable pour son âge, sans compter qu'elle ressemble incroyablement au portrait de la belle et fameuse duchesse de Longueville, qui a eu sous la fronde une si grande influence politique.
« Ah, c'est trop fort !» dit la baronne en interrompant son mari avec un redoublement d'hilarité.
L'orpheline, un moment pensive, ne partagea pas cette gaieté. Elle trouvait singulier qu'en moins de 2 heures, les 3 personnes dont nous parlons eussent tour à tour découvert qu'elles réunissaient les vocations les plus singulièrement opposées, celles de femmes dévotes, de femmes à la mode, de femmes politiques. La conversation fut interrompue par le bruit retentissant d'une voiture qui entrait dans la cour de l'hôtel. Le baron dit à sa femme, « Vous n'avez pas fermé votre porte ce soir ?»«
Non, mais je n'attends personne, à moins que ce ne soit Madame de Mirecourt qui, vous le savez, vient quelquefois en prima sera avant d'aller dans le monde. En ce cas, où voulez-vous la recevoir ?»«
Si cela ne vous ennuie pas trop, ma chère belle, » dit la baronne à Ernestine, « vous me permettriez de recevoir Madame de Mirecourt dans votre salon ? C'est une digne et excellente personne. »
« Faites absolument comme il vous plaira, madame, » répondit Ernestine.
« Vous ferez entrer dans le salon de mademoiselle de Vauménil, » dit la baronne à l'un des domestiques. Celui-ci sortit et revint bientôt en disant, « D'après les ordres de madame la baronne, j'ai fait entrer chez mademoiselle, mais ce n'était pas madame de Mirecourt. Et qui donc était-ce ?
Monsieur le marquis de Maillefort, madame la baronne. »
Au nom du marquis, le baron s'écria, «
C'est insupportable, une visite à une pareille heure est d'une familiarité inconcevable. »
La baronne fit signe à son mari de se contraindre devant les gens et dit tout bas à Ernestine, qui semblait surprise de cet incident.
« Monsieur de la Rochegue n'aime pas Monsieur de Maillefort, qui est un des plus malins et des plus méchants bossus qu'on puisse imaginer.
Un vrai Satan, » ajouta Helena.
« Il me semble, » dit Ernestine en réfléchissant, qu'autrefois chez ma mère j'ai entendu prononcer le nom de monsieur de Maillefort.
Et certes, ma toute belle, reprit la baronne en souriant,
l'on ne parlait pas précisément du marquis comme d'un bon ange.
Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de monsieur de Maillefort en bien ou en mal,
répondit l'orpheline, je me rappelle seulement son nom.
Et ce nom, dit le baron, est celui d'une véritable peste.
Mais, madame, dit mademoiselle de Beauménil, en hésitant, si monsieur de Maillefort est si méchant, pourquoi le recevez-vous ?
Ah, ma chère belle, dans le monde on est obligé à tant de concessions, surtout lorsqu'il s'agit de personnes de la naissance de monsieur de Maillefort.
Et s'adressant au baron, il est impossible de prolonger le dîner plus longtemps car on a servi le café dans le salon.
Madame de la Rochegue se leva de table. Le baron, dissimulant son dépit, offrit son bras à sa pupille, et tous entrèrent dans le salon où attendait monsieur de Maillefort. Le marquis avait pendant longtemps tellement pris l'habitude de se vaincre, à l'endroit de sa profonde et secrète passion pour la comtesse de Beauménil, passion que celle-ci avait seule pénétrée, qu'à la vue d'Ernestine, il ne trahit en rien l'intérêt qu'elle lui inspirait. Il songea non sans tristesse qu'il lui fallait se montrer devant l'orpheline ce qu'il avait toujours été devant les autres, incisif et sarcastique. Un changement soudain dans ses manières, dans son langage, eut éveillé les soupçons des La Rochegue, et pour protéger Ernestine à l'insu de tous et peut-être à l'insu d'elle-même, afin d'accomplir ainsi les dernières volontés de la comtesse, il ne devait en rien exciter les défiances des personnes dont l'orpheline était entourée. Monsieur de Maillefort, doué d'une grande sagacité, s'aperçut avec un cruel serrement de cœur de l'impression défavorable que son aspect causait à Ernestine, car celle-ci, encore sous l'influence des calomnies dont le bossu venait d'être l'objet, avait involontairement tressailli et détourné les yeux à la vue de cet être difforme. Si diversement pénibles que furent alors les sentiments du marquis, il eut la force de les dissimuler. S'avançant alors vers madame de la Rochegue, le sourire aux lèvres, l'ironie dans le regard, « Je suis bien indiscret, n'est-ce pas, ma chère baronne ? Mais vous le savez, ou plutôt vous l'ignorez, l'on n'a des amis que pour mettre avec eux ses défauts à l'aise. À moins, cependant,
ajouta le marquis en s'inclinant profondément devant Héléna, à moins que, comme mademoiselle de la Rochegue, on n'ait pas de défaut, et qu'on soit un ange de perfection, descendu des cieux pour l'édification des fidèles. Alors c'est pire encore. Quand on est si parfait, l'on inflige à ses amis le supplice de l'envie ou de l'admiration, car pour beaucoup c'est tout un. Et s'adressant à monsieur de la Rochegue, n'est-ce pas que j'ai raison, baron? Je m'en rapporte à vous, qui avez le bonheur de n'être blessant ni par vos qualités ni par vos défauts. Le baron sourit, montra outrageusement ses longues dents et répondit, en tâchant de contraindre sa mauvaise humeur, « Ah, marquis, marquis, toujours malicieux, mais toujours aimable. » Songeant alors qu'il ne pouvait se dispenser de présenter M. de Maillefort à sa pupille, qui regardait le bossu avec une crainte croissante, le baron dit à Ernestine, « Ma chère pupille, permettez-moi de vous présenter M. le marquis de Maillefort, un de nos bons amis. » Après s'être incliné devant la jeune fille, qui lui rendit son salut d'un air embarrassé, le bossu lui dit avec une froideur polie, « Je suis heureux, mademoiselle, d'avoir maintenant un motif de plus pour venir souvent chez madame de la Rochegue. » Et comme s'il se croyait libéré envers l'orpheline par cette banalité, le marquis s'inclina de nouveau et alla s'asseoir auprès de la baronne pendant que son mari tâchait de donner une contenance à son dépit en dégustant le café avec lenteur et qu'Héléna, s'emparant d'Ernestine, l'emmenait à quelques pas sous prétexte de lui faire admirer les fleurs d'une jardinière. Le marquis, sans paraître faire la moindre attention à Ernestine et à Héléna, ne les perdit cependant pas de vue. Il avait l'ouïe très fine, et il espérait surprendre quelques mots de l'entretien de la dévote et de l'orpheline, tout en causant avec madame de la Rochegue. Conversation d'abord nécessairement insignifiante, chacun des interlocuteurs, cachant soigneusement le fond de sa pensée sous un parlage frivole ou banal, tâchait de voir venir son adversaire ainsi que l'on dit vulgairement. La vague d'un pareil entretien favorisait à merveille les intentions du marquis aussi, tandis que d'une oreille distraite il écoutait madame de la Rochegue, il l'écoutait de l'autre, et très curieusement Ernestine, le baron et Héléna. La dévote et son frère, croyant le bossu tout à son entretien avec madame de la Rochegue, rappelèrent à l'orpheline, dans le courant de leur conversation, la promesse qu'elle avait faite à Héléna de l'accompagner le lendemain à l'office de 9 heures, au baron d'aller le surlendemain admirer avec lui les merveilles du Luxembourg. Quoiqu'il n'y eût rien d'extraordinaire dans ces projets acceptés par Ernestine, M. de Maillefort, très en défiance contre les La Rochegue, ne regarda pas comme inutile pour lui d'être instruit de ces particularités en apparence insignifiantes. Il les nota soigneusement dans son esprit, tout en répondant avec son aisance habituelle au lieu commun de la baronne. L'attention du bossu était ainsi partagée depuis quelques minutes lorsqu'il vit du coin de l'œil Héléna parler bas à Ernestine, en lui montrant du regard madame de la Rochegue, comme pour lui dire qu'il ne fallait pas la déranger de son entretien. Puis l'orpheline, Héléna et le baron quittèrent discrètement le salon. Madame de la Rochegue ne s'aperçut de leur absence qu'au bruit que fit la porte en se refermant. Ce départ servait à souhait la baronne. La présence des autres personnes eût gêné une explication qui lui paraissait très urgente d'avoir avec le marquis. Elle était trop fine, trop rompue au monde pour n'avoir pas pressenti, ainsi qu'elle l'avait dit à son mari, que le marquis, revenant chez elle après une longue interruption dans leur relation, ne pouvait être ramené que par la présence de l'héritière, sur laquelle il avait nécessairement quelques vues cachées. La passion du bossu pour madame de Beauménil n'ayant été devinée par personne, sa dernière entrevue avec la comtesse mourante ayant aussi été tenue secrète, madame de la Rochegue ne pouvait soupçonner et ne soupçonnait pas la sollicitude que le marquis portait à Ernestine. Voulant néanmoins tâcher de pénétrer les desseins du bossu, afin de les déjouer s'il contrariait les siens, madame de la Rochegue interrompit son insignifiante conversation dès que la porte se fut refermée sur l'orpheline. « Eh bien, demanda la baronne au bossu, comment trouvez-vous, mademoiselle de Beauménil ?
Je la trouve très généreuse. »«
Comment cela, marquis, très généreuse ?
Sans doute, avec sa fortune, votre pupille aurait le droit d'être aussi laide, aussi bossue que moi.
Mais a-t-elle quelque qualité ?
je la connais depuis si peu de temps que je ne saurais trop vous dire.
Voyons, pourquoi ces réticences?
Vous sentez bien que je ne viens pas vous demander la main de votre pupille.
Qui sait? Reprit la baronne en riant.
Moi, je le sais, et je vous le dis.
Sérieusement, marquis, reprit madame de la Rochegude d'un ton pénétré, je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, 100 projets de mariage sont déjà formés.
Contre mademoiselle de Beauménil?
Contre, est très jolie. Mais tenez, marquis, je veux être franche avec vous.
Vraiment? Dit le bossu avec une surprise railleuse.
Eh bien, moi aussi. Allons, ma chère baronne, faisons cette petite débauche de sincérité. Ma foi, tant pis.
Et M. de Maillefort approcha son fauteuil du canapé où la baronne était assise.